Chapitre 22. Côte Rouge 5. À son entrée dans la base, Iwanji ne s'était jamais imaginé qu'elle pourrait en sortir un jour. Après avoir pris connaissance de l'objectif réel du projet Côte Rouge, une information si secrète que de nombreux cadres intermédiaires de la base l'ignoraient eux-mêmes, elle avait mentalement coupé tout contact avec le monde extérieur et s'était totalement abandonnée à son travail. Dès lors, elle avait eu l'occasion de pénétrer plus profondément encore au cœur de la technologie de Côte Rouge et avait commencé à assumer de plus grandes responsabilités en matière de recherche. Lazy Cheng en voulait à Yang Wenning d'avoir fait confiance à Iwanji, mais il acceptait tout de même volontiers de confier à celle-ci des projets de recherche plus importants. Étant donné son statut, Iwanji ne possédait de toute façon aucun droit sur les résultats de ses recherches. Seul autre diplômé d'astrophysique de toute la base, Lazy Cheng était à l'époque l'un des rares cadres politiques à être issu du monde intellectuel. Aussi, il signait de son nom les résultats et les articles scientifiques de Wenji, ce qui faisait de lui un cadre politique modèle, à la fois fervent révolutionnaire et savant technicien. La raison première qui avait permis à Wenji de rejoindre la base, c'était une étude mathématique autour du Soleil qu'elle avait publiée dans The Journal of Astrophysics, lorsqu'elle était encore étudiante de deuxième cycle. Par comparaison avec la Terre, le Soleil était un système physique autrement plus simple. Il était presque entièrement composé de deux éléments, l'hydrogène et l'hélium. Même si les processus physiques y étaient complexes, il ne s'agissait que de variations de la fusion de l'hydrogène en hélium. Il était donc possible de construire un modèle mathématique susceptible de décrire plus précisément la nature du Soleil. Son article était assez basique, mais Yang Wenning et Lazy Cheng y avaient vu un espoir de résoudre les problèmes techniques auxquels faisait face le système de surveillance de Côte Rouge. Les pannes solaires constituaient par exemple des obstacles réguliers au bon fonctionnement du système. Cette expression de « panne solaire » était née en même temps que la technologie des satellites de communication, toute récente. Lorsque la Terre, le satellite et le Soleil étaient alignés, les antennes de réception au sol avaient le Soleil pour fond. Celle-ci étant une immense source de rayonnement électromagnétique, les transmissions par ondes des satellites étaient soumises à de fortes perturbations. 20 ans plus tard, au XXIe siècle, ce problème n'avait toujours pas été résolu. Côte Rouge faisait face à des perturbations de ce type, à la différence près que la source des perturbations, le Soleil, se situait entre la source des transmissions, l'espace, et l'antenne de réception au sol. En comparaison avec des satellites de communication, les pannes solaires dont était victime Côte Rouge étaient plus fréquentes et plus graves. Les infrastructures de la base étaient en réalité bien plus modestes que ce qui avait été imaginé lors de sa conception. Les unités de surveillance et de transmission partageaient par exemple une seule et même antenne. Le temps consacré aux activités de surveillance était donc d'autant plus précieux et les pannes solaires d'autant plus dommageables. L'idée de Yang Wenning et de Lazy Cheng était simple. Tout d'abord, déterminer la fréquence et les particularités des rayonnements électromagnétiques solaires qui perturbaient le système de réception et, ensuite, les filtrer numériquement. Ils étaient tous deux techniciens, ce qui était certes très appréciable pour l'époque. Cependant, Yang Wenning n'était pas spécialiste d'astrophysique et Lazy Cheng s'étant destiné à une carrière politique, ses connaissances dans ce domaine n'étaient pas aussi expertes. En réalité, le spectre électromagnétique du Soleil était stable uniquement entre le domaine de rayonnement ultraviolet proche et le domaine de rayonnement infrarouge moyen, ce qui incluait ainsi le domaine de la lumière visible. Pour tous les autres domaines, le rayonnement du Soleil s'avérait instable. Iwanji avait brillamment montré dans son premier rapport de recherche que, durant les intenses périodes d'activité solaire, taches solaires, éruptions solaires, éjections de masse coronale, etc., il était impossible de supprimer les perturbations solaires. L'objet de ses recherches se limitait donc aux rayonnements électromagnétiques situés dans les gammes de fréquences surveillées par Côte Rouge et durant les phases normales de l'activité solaire. La base bénéficiait de conditions de recherche satisfaisantes. La bibliothèque disposait d'une collection assez complète d'ouvrages de référence en langue étrangère qu'il lui était possible de consulter et elle recevait les derniers numéros des revues universitaires américaines et européennes, une chose rare à l'époque. Iwonji pouvait également utiliser la ligne téléphonique militaire pour contacter deux équipes de l'Académie chinoise des sciences qui menaient des recherches sur les phénomènes solaires. Elle recevait régulièrement par fax leurs données et leurs observations. La recherche de Iwonji se poursuivit durant 6 mois, mais elle n'entrevoyait aucun espoir de réussite. Elle avait rapidement découvert que, dans les gammes de fréquences surveillées par Côte Rouge, les rayonnements solaires étaient imprévisibles. Après une analyse d'une grande somme de données d'observation, elle découvrit un mystère déconcertant. Parfois, alors qu'avait lieu une soudaine variation du rayonnement solaire, l'activité à la surface du Soleil apparaissait paradoxalement calme. Ce n'était pas un cas isolé, car un bon millier de données d'observation documentaient le même phénomène. Les rayonnements micro-ondes et d'ondes courtes issues du noyau du Soleil ne pouvant traverser les centaines de milliers de kilomètres constituant la couche du Soleil, ces rayonnements devaient par conséquent provenir de sa surface. Une activité solaire particulière aurait dû être observée lors du déclenchement de ces perturbations. Or, aucune activité correspondante n'apparaissait à la surface du Soleil. Quel phénomène provoquait donc les variations soudaines de ces étroites gammes de fréquences? Plus elle y pensait, plus ce mystère l'intriguait. Après avoir épuisé toutes les hypothèses, Iwonji décida d'abandonner. Dans le dernier rapport qu'elle avait rédigé, elle avouait son incompétence à résoudre le problème. L'échec ne serait pas mal perçu, car les deux équipes universitaires jadis consultées par les militaires s'étaient retrouvées dans la même impasse. Yang Wenning avait simplement voulu essayer une nouvelle fois en faisant appel à l'expertise de Iwonji. Le but de Lazy Cheng était encore plus simple. Il voulait l'article de Wenji. Ce sujet de recherche était très théorique et lui permettrait de faire valoir son niveau scientifique. La terrible fièvre de la révolution culturelle commençait désormais à retomber et les exigences envers les cadres du parti étaient en train de changer. Sa maturité politique et ses insignes succès académiques lui conféraient un profil rare et le destinaient à une carrière prometteuse. Il se préoccupait donc peu de savoir si le problème des pannes solaires pouvait ou non être résolu. Mais finalement, Iwonji ne rendit aucun rapport. Elle s'était dit que si elle déclarait avoir terminé ses recherches, la bibliothèque cesserait ses commandes d'ouvrages et de revues sur ce thème. Elle n'aurait plus jamais accès à ses riches collections relatives à l'astrophysique. Aussi, du moins officiellement, poursuivait-elle ses recherches, tandis qu'elle concentrait désormais ses efforts sur la conception de son modèle mathématique solaire. Ce soir-là, Iwonji était, comme d'ordinaire, la seule personne à se trouver dans la glaciale salle de lecture de la bibliothèque. Sur la longue table devant laquelle elle était assise, était posée une pile de livres et de revues. Après avoir achevé les calculs d'une matrice complexe, elle se frotta les mains pour les réchauffer et saisit le dernier numéro de la revue Journal of Astrophysics pour prendre une pause. Alors qu'elle le feuilletait, une note portant sur Jupiter attira son attention. Dans l'article, une nouvelle et puissante source de rayonnement dans le système solaire paru dans notre dernier numéro, notre confrère, le docteur Harry Peterson de l'Observatoire du Mont Wilson, a publié une liste de données obtenues lors de l'observation de la précession de Jupiter entre le 12 juin et le 2 juillet. Durant cette observation, le docteur Peterson a fait la découverte fortuite de 2 intenses rayonnements électromagnétiques provenant de Jupiter elle-même. La durée de chaque rayonnement a respectivement été de 81 et 76 secondes. Les données publiées par Peterson comprennent aussi les gammes de fréquences ainsi que d'autres paramètres. Au cours de ces sursauts radio, Peterson a noté des variations de la grande tache rouge de Jupiter. Les sursauts radio jupitériens ont suscité depuis un grand intérêt dans la communauté des planétologues. Dans ce numéro, Jim Mackenzie revient dans son article sur cette découverte en proposant l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur du déclenchement d'une fusion nucléaire sur Jupiter. Dans notre prochain numéro, nous publierons un article de Kumoichi Inoue qui attribue pour sa part les sursauts radio-jupitériens à un mécanisme plus complexe, les mouvements internes de plaques d'hydrogène métallique. Il en donnera une description mathématique complète. Iwenji se rappelait avec netteté les deux dates dont il était question. Ces jours-là, le système de surveillance de Côte Rouge avait été soumis à de fortes perturbations provoquées par des pannes solaires. Elle consulta le journal des opérations de l'unité qui ne fit que confirmer ses souvenirs. Les dates étaient proches, à la différence près que les pannes solaires avaient eu lieu sur Terre 6 minutes et 42 secondes après les sursauts radio de Jupiter. Ces 6 minutes et 42 secondes étaient la clé. Wonji essaya de calmer les palpitations furieuses de son cœur. Elle demanda au bibliothécaire de contacter l'Observatoire national pour obtenir les éphémérides de Jupiter et de la Terre correspondant à ces deux périodes. Elle traça sur le tableau noir un grand triangle au sommet duquel elle plaça le Soleil, la Terre et Jupiter. Elle inscrivit les distances le long des trois côtés et écrivit à côté du sommet Terre les heures auxquelles elle avait observé les perturbations. Il était facile de calculer le temps du trajet mis par les rayonnements électromagnétiques entre Jupiter et la Terre. Elle calcula ensuite le temps qu'il avait fallu au rayonnement pour relier Jupiter au Soleil et le Soleil à la Terre. La différence entre les deux était d'exactement 6 minutes et 42 secondes. Iwanji se reporta à son modèle mathématique de la structure solaire et essaya de chercher le moindre indice d'une théorie pouvant expliquer le phénomène. Ses yeux se rivèrent sur ce qu'elle avait jadis appelé dans son travail les « miroirs d'énergie » de la zone radiative du Soleil. L'énergie libérée lors des réactions de fusion apparaît en premier lieu sous la forme de rayons gamma de haute énergie. La zone radiative absorbe ces photons de haute énergie et les émet à nouveau, mais cette fois à une énergie plus basse. Après un long processus répété d'absorption et de réémission, un photon peut parfois mettre 1000 ans avant de quitter le Soleil, les rayons gamma deviennent des rayons X, des rayons ultraviolets extrêmes, puis des rayons ultraviolets, avant de se transformer petit à petit en lumière visible et en d'autres formes de rayonnement. Ce phénomène était déjà bien connu des chercheurs travaillant sur les activités du Soleil. Le nouveau résultat produit par le modèle mathématique de Iwanji était le suivant. Pendant le parcours du rayonnement solaire dans la zone radiative, celui-ci passe entre des couches à fréquences différentes. Entre deux couches adjacentes existent des interfaces, et chaque fois qu'une de ces interfaces est franchie, la fréquence de rayonnement diminue d'un niveau. Cette élaboration allait à l'encontre de la conception traditionnelle, considérant que la fréquence dans la zone de radiation diminue graduellement. Ces calculs montraient que ces fameuses interfaces reflétaient les rayonnements de fréquences faibles. C'est ce qui lui avait inspiré l'appellation de « miroir d'énergie ». Wenji avait examiné de près ces fines membranes instables en suspension au-dessus de l'océan de plasma du Soleil. Elle avait découvert que ces substances possédaient des caractéristiques exceptionnelles. L'une des plus incroyables était leur surréflexivité, mais cette dernière singularité paraissait si extraordinaire qu'elle était difficile à prouver. Iwanji elle-même avait peine à croire qu'elle soit réelle. Il lui semblait plus probable d'avoir commis des erreurs durant ces complexes et vertigineux calculs. Mais à présent, Iwanji avait fait un premier pas corroborant l'hypothèse de la surréflectivité des miroirs d'énergie solaire. Ces miroirs ne se contentaient pas simplement de refléter les rayonnements de fréquences faibles, ils les amplifiaient. Toutes les mystérieuses et soudaines variations à l'intérieur de gammes de fréquences étroites qu'elle avait pu observer par le passé étaient donc le résultat de l'amplification par ces miroirs de rayonnements provenant de l'espace. Voilà pourquoi aucune perturbation liée à ces rayonnements n'était visible à la surface du Soleil. Ces deux fois-là, Il était possible que les sursauts radio reçus par le Soleil en provenance de Jupiter aient été émis à nouveau, après avoir été amplifiés près d'une centaine de millions de fois. Quant à la Terre, elle avait reçu les deux rayonnements, avant et après leur amplification, séparés par un intervalle de 6 minutes et 42 secondes. Le Soleil était un amplificateur d'ondes radio. Mais une question se posait. Le Soleil devait certainement recevoir chaque seconde des rayonnements électromagnétiques provenant de l'espace, y compris les ondes radio émises par la Terre. Pourquoi dès lors n'en amplifiait-il qu'une seule partie? La réponse était simple. Non seulement toutes les fréquences n'étaient pas forcément reflétées par les miroirs d'énergie, mais surtout, la zone convective du Soleil jouait le rôle de bouclier protecteur. Sans cesse bouillonnante et visible sous la forme de granulations solaires, elle se situait au-dessus de la zone radiative. C'était la couche la plus externe du Soleil. Les ondes radio venues de l'espace devaient donc d'abord pénétrer cette zone de convection avant d'atteindre les miroirs d'énergie de la zone de radiation et être ensuite amplifiées avant d'être émises à nouveau. Cela nécessitait des ondes radio entrantes qu'elles dépassent un certain seuil que la plupart des ondes radio émises par la Terre étaient incapables d'atteindre, au contraire des sursauts radio de Jupiter. La puissance maximale de côte rouge permettait néanmoins de dépasser ce seuil. Si le problème des pannes solaires n'avait pas été résolu, une perspective excitante en découlait. Les humains étaient capables d'utiliser le Soleil comme une super antenne pour transmettre des ondes radio dans l'univers. Ces ondes seraient envoyées grâce à l'énergie fournie par le Soleil et leur puissance d'émission serait des centaines de millions de fois supérieure à la totalité de l'énergie terrestre. La civilisation terrienne avait la capacité de transmission de communication d'une civilisation de type 2 sur l'échelle de Kardashev. La prochaine étape consistait à comparer les formes d'ondes des deux sursauts radio de Jupiter avec celles des pannes solaires dont Côte Rouge était victime. Si celles-ci correspondaient, un pas énorme serait fait dans la vérification de cette hypothèse. Iwenji demanda au responsable de la base de pouvoir contacter le docteur Harry Peterson pour obtenir ses données sur les formes d'ondes des sursauts radio joviens. Ce n'était pas chose facile, car il était difficile de trouver les bons réseaux et il fallait faire un nombre considérable de démarches administratives auprès de différents bureaux. La moindre erreur et elle pouvait être suspectée d'espionnage. Iwenji fit ce qu'elle avait de mieux à faire, attendre. Cependant, il existait un moyen bien plus direct d'éprouver son hypothèse. Envoyer, depuis Côte Rouge, une transmission dépassant le fameux seuil vers le Soleil. Iwenji alla trouver les responsables et exprima sa requête. Elle n'osa pas donner le véritable motif de cette demande, c'était bien trop extraordinaire, et se contenta d'indiquer que l'expérience s'inscrivait dans le cadre de ses recherches sur le Soleil. Le système de transmission de Côte Rouge servirait de radar d'exploration et les échos que recevrait la base seraient utilisés comme données pour analyser les rayonnements électromagnétiques solaires. Lazy Cheng et Yang Wenning avaient tous deux un passé de technicien et il n'était pas facile de les berner. Néanmoins, l'expérience décrite par Iwenji avait des antécédents en Occident. De plus, son projet de radar d'exploration solaire était techniquement plus simple que les radars utilisés pour explorer d'autres planètes telluriques. Wenji, tes demandes sont de plus en plus démesurées. Tu devrais limiter tes recherches à des questions théoriques. Est-il vraiment si nécessaire de provoquer tout ce remue-ménage ? Dit Lazy Cheng en secouant la tête. Commissaire Lei ? J'ai peut-être fait une grande découverte, je dois absolument mener cette expérience. Juste une fois, je vous en prie, l'implora Wenji. Yang Wenning lui apporta son soutien. Commissaire, peut-être pourrions-nous lui accorder cette expérience. Après tout, ce n'est techniquement pas si difficile. Le temps de réception des échos après transmission est tout au plus de... une quinzaine de minutes, compléta Lazy Cheng. C'est tout juste le temps dont a besoin le système de côte rouge pour passer du mode de transmission au mode de surveillance. Lazy Cheng secoua une nouvelle fois la tête. Je sais bien que cela ne pose pas de problème, ni en termes techniques, ni en termes de charge de travail, mais... Oh, ingénieur Yang, où as-tu la tête? Émettre des ondes radio surpuissantes vers le soleil? Tu n'as donc pas réfléchi au symbole politique que cela représente? Mao Tse-tung était souvent désigné le soleil rouge dans les discours de propagande. Yang Wenning et Yi Wenji échangèrent un regard. Ils étaient abasourdis, non parce qu'ils trouvaient cet argument ridicule, mais parce qu'ils étaient effrayés à l'idée de ne pas y avoir pensé. À l'époque, l'obsession absurde qui consistait à trouver partout des métaphores politiques touchait à son paroxysme. Certains gardes rouges avaient par exemple décrété qu'il serait désormais interdit de tourner à droite, il fallait uniquement tourner à gauche. Les feux piétons avaient été modifiés, on devait dorénavant s'arrêter au vert et passer au rouge. Une règle à laquelle le premier ministre Chou En-lai mit plus tard un terme. Une pièce de monnaie avait jadis été frappée à l'effigie d'une foule de paysans, parmi lesquels deux portaient une pelle et une houe. Or, les syllabes signifiant « pelle » et « ou » étaient en chinois homophones du mot « éliminer ». Des gardes rouges trop zélés y avaient vu un message contre-révolutionnaire prônant l'élimination de la classe paysanne. L'individu à l'origine de la conception de la pièce avait même été sévèrement châtié. On racontait qu'un autre individu avait accroché dans sa maison un portrait de Mao Tse-tung, qu'il avait lui-même encadré. Cet outrage lui avait valu près de 10 ans de prison. Au début, lorsque Yi Wenji transmettait ses rapports, ceux-ci devaient être minutieusement relus par Lazy Cheng et des termes techniques liés au soleil devaient être fréquemment modifiés, comme par exemple celui de tâche solaire. Elle pouvait bien avoir 1000 raisons valables d'effectuer une expérience de transmission d'ondes radio vers le soleil. Aussi longtemps qu'une interprétation politique était possible, le danger existait. La raison invoquée par Lazy Cheng pour rejeter l'expérience ne pouvait pas être discutée. Yi Wenji ne lâcha pas l'affaire pour autant. En fait, tant qu'elle ne prenait pas de risques inconsidérés, l'expérience ne s'avérait pas si difficile à réaliser. L'appareil de transmission de côte rouge était très puissant, mais tous ses composants étaient produits sur le territoire national à l'époque de la Révolution culturelle. Comme ils étaient de qualité bien inférieure à la moyenne, leur taux de dysfonctionnement était élevé. Les techniciens étaient donc contraints de procéder à une révision intégrale des appareils toutes les 15 transmissions, puis, après chaque révision, d'effectuer un essai de transmission. Peu de gens participaient à cet essai, et les cibles ainsi que les paramètres de transmission étaient déterminés arbitrairement. Ce jour-là, Wenji avait été désigné pour procéder à l'essai après la révision du système. L'essai de transmission étant exempté de toutes les étapes habituelles, il n'y avait en dehors de Wenji que 5 employés dans la pièce. 3 d'entre eux n'étaient que des opérateurs qui, ne comprenant pas réellement les principes de fonctionnement de l'appareil, se cantonnaient d'ordinaire à l'exécution des ordres de transmission. Les 2 autres étaient respectivement techniciens et ingénieurs. Éreintés après 2 jours passés à s'occuper de la révision du matériel, ils n'avaient pas la tête à ça. Wenji commença par régler la puissance de transmission, juste au-dessus du seuil défini par sa théorie sur la surréflexivité du soleil, ce qui était déjà la puissance maximale de la base de côte rouge. Elle régla ensuite la fréquence de manière qu'elle ait la plus grande probabilité d'être amplifiée par les miroirs d'énergie. Au prétexte de vouloir tester les propriétés mécaniques de l'antenne, elle sélectionna comme cible de transmission le soleil, qui se trouvait alors à l'ouest du ciel. Elle démarra ensuite la transmission avec le même contenu que lors des envois habituels. C'était un après-midi clair de l'automne 1971. Plus tard, Yi Wenji y repenserait souvent, mais à cet instant, elle n'avait aucune sensation particulière, hormis un peu d'anxiété et l'envie que tout soit rapidement terminé. Tout d'abord, elle avait peur de se faire remarquer par ses collègues de la base. Bien qu'elle ait déjà songé à des excuses, l'utilisation de la puissance maximale de transmission qui détériorait les composants était anormal lors d'un test. Deuxièmement, le système de transmission de côte rouge n'était pas prévu pour cibler le soleil. Iwanji pouvait sentir, rien qu'en le touchant, que le système optique était en train de chauffer. Si le tout prenait feu, elle aurait de graves problèmes. À l'ouest, le soleil était peu à peu en train de se coucher. Le système de suivi automatique des cibles de transmission étant hors service, Wanji dut suivre le signal manuellement. L'antenne de côte rouge se tourna et pivota lentement dans la direction du coucher du soleil, comme un immense tournesol. Lorsque le signal de la lumière rouge indiquant la fin de la transmission s'éclaira, elle était trempée de sueur. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Les trois opérateurs étaient en train d'éteindre les appareils les uns après les autres, en suivant les instructions d'un manuel technique qu'ils tenaient entre les mains. L'ingénieur buvait un verre d'eau dans la console de contrôle. Le technicien, lui, s'était assoupi sur sa chaise. Les historiens et les écrivains gratifièrent plus tard cette scène de descriptions épiques, mais ce jour-là, tout avait été d'une parfaite banalité. La transmission terminée, Wanji sortit en hâte de la console de contrôle et courut jusqu'au bureau de Yang Wenning. « Vite, donnez à la station radio de la base l'ordre de se régler sur la bande de fréquence 12 000 MHz, » lui dit-elle, le souffle court. « Que recevons-nous ? » L'ingénieur en chef Yang regarda avec étonnement Iwenji, dont les cheveux collaient au visage à cause de la transpiration. Par comparaison avec le système de réception ultrasensible de côte rouge, utiliser la radio militaire ordinaire, cantonnée habituellement aux communications avec l'extérieur de la base, relevait du jeu d'enfant. Nous allons peut-être recevoir quelque chose. Nous n'avons pas le temps de passer les systèmes de côte rouge sur le mode surveillance, dit Wanji. En temps normal, la mise en chauffe du système de surveillance n'aurait pris qu'une dizaine de minutes, mais celui-ci était aussi en révision et de nombreux composants n'avaient pas encore été réassemblés. Yang Wenning observa Wenji quelques secondes, puis il prit son téléphone et donna au bureau des communications les instructions souhaitées par Wenji. « Avec le degré de sensibilité de cette radio, nous arriverons tout au plus à capter des signaux d'extraterrestres vivant sur la Lune. »« Le signal viendra du soleil, » dit Wenji. Derrière la fenêtre, les lisières du soleil avaient déjà atteint les sommets rougissants des montagnes de l'horizon. « Tu as utilisé le système de transmission de côte rouge pour envoyer un signal vers le soleil ?» demanda Yang Wenning, inquiet. Wenji hocha la tête. « Personne ne doit être mis au courant. Cela ne doit plus jamais arriver, tu m'entends ? Jamais !» souffla Yang Wenning en regardant la porte avec prudence. Wenji hocha à nouveau la tête. « Mais que cherches-tu ? Les échos sont extrêmement faibles. Une radio conventionnelle n'a pas la sensibilité suffisante pour les entendre. Non. Si mes prévisions sont exactes, nous recevrons un écho puissant comme un écho inimaginable. Si la puissance de transmission dépasse un certain seuil, le soleil peut amplifier les ondes radio une centaine de millions de fois. Yang Wenning regarda une nouvelle fois Wenji avec surprise. Elle demeura silencieuse. Ils attendirent ensemble sans rien se dire. Yang Wenning pouvait entendre la respiration et les battements saccadés du cœur de Wenji. Il n'avait pas vraiment fait attention à ce qu'elle avait dit, mais les sentiments qu'il avait dissimulés en lui depuis tant d'années refaisaient maintenant surface. Il ne pouvait que les réfréner et attendre. 20 minutes plus tard, il prit le téléphone, appela le bureau des communications et posa quelques questions simples. Ils n'ont rien reçu, dit Yang Wenning en raccrochant le combiné. Wenji poussa un grand soupir. Ce ne fut qu'après un long moment qu'elle hocha finalement la tête. L'astronome américain, lui, a répondu, dit Yang Wenning en sortant une épaisse enveloppe qu'il tendit à Wenji. L'enveloppe était couverte de tampons de douane. Impatiente, Wenji la décacheta aussitôt et balaya son contenu des yeux. Dans sa lettre, Harry Peterson expliquait qu'il n'avait pas imaginé que des collègues chinois étudiaient aussi les rayonnements électromagnétiques des planètes. Il se disait tout disposé à échanger et à collaborer. Peterson avait également envoyé deux piles de papier, les rapports complets des formes d'ondes observées lors des deux sursauts de Jupiter. Les formes d'ondes avaient apparemment été photocopiées à partir d'un seul long document, et il fallait à présent les assembler. Peu de Chinois de l'époque avaient eu l'occasion de voir un photocopieur à l'œuvre. Wenji se saisit de la dizaine de photocopies et les disposa à même le sol en commençant à les aligner en deux rangées. Mais à peine avait-elle reconstitué la moitié du signal qu'elle avait déjà perdu tout espoir. Elle connaissait trop bien les formes d'ondes constatées lors des deux pannes solaires dont Côte Rouge avait été victime. Elles ne correspondaient pas à celles de Peterson. Wenji ramassa délicatement les feuilles qu'elle avait étalées sur le sol. Yang Wenning s'accroupit pour l'aider. Quand il tendit un paquet de feuilles à cette fille qu'il avait jadis profondément aimée, il la vit sourire en secouant la tête. Un sourire si triste qu'il le fit frissonner. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, sans se rendre compte qu'il ne s'était jamais adressé à elle avec une voix aussi douce. « Rien. Rien d'autre qu'un rêve dont je viens de me réveiller. » Elle lui sourit et sortit du bureau avec le paquet de photocopies et l'enveloppe sous le bras. Sur le chemin de sa chambre, elle récupéra au passage son panier repas. Elle découvrit qu'il ne restait plus qu'un pain à la vapeur et quelques légumes marinés dans le vinaigre. L'employé de la cafétéria lui dit d'un air peu aimable qu'il allait fermer. Elle sortit et alla s'asseoir sur l'herbe au bord de la falaise pour manger son pain à la vapeur froid. Le soleil venait de se coucher. Les monts du Grand Kingan étaient brumeux comme la vie de Iwenji. Un rêve était apparu dans cette grisaille, colorée et étincelant, mais, comme toujours, elle avait fini par se réveiller, comme le soleil qui finit toujours par se lever, sans aucun nouvel espoir. Wenji s'imagina soudain le reste de sa vie d'un gris sans fin. Les larmes aux yeux, elle sourit encore, puis croqua dans son pain à la vapeur. Elle ignorait alors qu'au même moment, le premier pleur humain qui ait jamais été entendu dans l'espace avait atteint le soleil, d'où il était reparti vers l'univers entier à la vitesse de la lumière. Une onde radio d'une puissance stellaire, telle une somptueuse vague, était déjà au large de l'orbite de Jupiter. À cet instant précis, à une fréquence de 12 000 MHz, le Soleil était l'étoile la plus brillante de toute la Voie lactée.